Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Belinda Bossuma.
La femme est célébrée aujourd'hui dans le monde entier. En RDC, plusieurs activités sont organisées à travers le pays. À Bukavu, par exemple, le gouvernement provincial avec les femmes réfléchissent sur la protection de l'environnement et la réduction des risques de catastrophes. À Inongo, dans le Maïndombe, il y a eu lancement hier du projet dénommé Mobali Pona Mwasi de l'ONG internationale Trias. Et à l'occasion de cette célébration, nous recevons Madame Jaël Kaïba, présidente provinciale de la Fédération nationale des artisans des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC Maniema. La peine capitale contre Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Jugement rendu hier à l'issue de l'audience publique devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Mais la défense de Kambere a plaidé non coupable. Vous entendrez la réaction de Ferdinand Kambere. Madame, Messieurs, bonjour. La Journée internationale des femmes, également appelée Journée internationale des droits des femmes, est célébrée aujourd'hui 8 mars, ou le 8 mars de chaque année, officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies. Cette journée couvre plusieurs événements à travers le monde avec comme objectif de mettre un accent sur la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Si sur le plan international, cette journée est placée cette année sous le thème « L'égalité des sexes » aujourd'hui pour un avenir durable. En RDC, le thème retenu est l'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de lutte contre les changements climatiques et la réduction des risques des catastrophes. Mais quelle est la vision des Nations Unies sur l'égalité entre les sexes? Élément de réponse avec Pele Kipela Mondo.
Pour les Nations Unies, faire progresser l'égalité entre les sexes dans le contexte de la crise climatique et de la réduction des risques des catastrophes est un des plus grands défis du XXIe siècle. L'ONU rappelle que les femmes sont plus vulnérables aux changements climatiques que les hommes, car elles constituent la majorité des populations les plus pauvres et les plus dépendantes aux ressources naturelles que la crise climatique menace le plus. Dans le même temps, poursuit l'ONU, les femmes et les filles sont des agents des changements et des leaders puissantes dans l'adaptation climatique. Elles sont impliquées dans des initiatives durables dans le monde entier et leur participation a pour résultat une action climatique plus efficace. Continuer à examiner les opportunités ainsi que les contraintes pour donner aux femmes et aux filles les moyens de faire entendre leur voix et d'être des actrices égales dans la prise des décisions liées au changement climatique et à la durabilité est essentiel pour le développement durable et une plus grande égalité des sexes, affirme l'Organisation mondiale. Pour l'ONU, sans l'égalité des sexes aujourd'hui, un avenir durable et égal reste hors de notre portée. En cette journée internationale des femmes, proclamons l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, indiquent les Nations Unies.
Et pour marquer cette journée dédiée à la femme, au Sud Kivu, d'intenses activités sont organisées ce mardi à Bukavu. Le gouvernement provincial et d'autres partenaires réfléchissent avec les femmes sur la protection de l'environnement et la réduction des risques des catastrophes. Rejoignons sur place à Bukavu Emmanuel et la Mejiwa Kabedi. Emmanuel, bonjour, dites-nous en plus.
Bonjour Belinda Bossuma. Au Sud Kivu, la principale thématique qui préoccupe les femmes de Bukavu cette année porte sur la lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. À l'université protestante, par exemple, université évangélique en Afrique, les discussions portent sur les femmes et filles qui mènent l'offensive quant à l'adaptation et la réponse au changement climatique et leur atténuation. Le bureau de ASR au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Bukavu, vient de planter tout de suite plus de 50 arbres sur trois grandes artères de Bukavu, en commune d'Ibanda. C'est notamment sur l'avenue Maniema, sur l'avenue Kindu, ainsi que sur l'avenue de la cathédrale. Ensuite, le HCR prévoit des échanges sur l'autonomisation et la protection de l'environnement, sur l'utilisation de l'énergie renouvelable, gestion et destruction des ordures ménagères. Le gouvernement provincial du Sud Kivu réunit ce mardi toutes les couches de femmes sur plusieurs thématiques pour essentiellement sur la gestion de l'environnement.
Merci Emmanuel. Restons au Sud Kivu. Beaucoup de femmes optent pour le commerce des fruits et légumes dans les rues de Bukavu. Malgré le maigre bénéfice de cette activité, elles arrivent quand même à scolariser leurs enfants, mais surtout à nourrir leur ménage. Cynthia Bachizi est allée à la rencontre de l'une de ces femmes.
Celle qu'on appelle affectueusement Maman Rose est une veuve qui est à la cinquantaine révolue. À pied ou en transport en commun, cette mère de 7 enfants quitte tous les jours son domicile à Kavumu, situé à plus de 30 kilomètres au nord de Bukavu. Direction le centre-ville de Bukavu où elle vend des avocats, mais aussi du maïs depuis plusieurs années. Malgré toutes les difficultés dont elle nous a fait part, nous sommes frappés par son sourire à fossettes qui semble intemporel car il ne la quitte pas tout le long de notre entretien. Témoignage.
Ces bassins d'avocats équivaut 15 000 et ou 20 000 francs que j'arrive à payer. Si j'avais suffisamment de moyens, je peux même me payer plus que ça. Me procurer même un avocatier équivalent à 100 000 francs pour plus de gains. C'est grâce à ce commerce que je parviens à scolariser les enfants et les nourrir. Je demande aux autres femmes de venir se joindre à nous, que l'on travaille ensemble, en vue qu'elles trouvent comment nourrir leurs enfants, car certaines d'entre elles ne se soucient pas de leur
Comme Maman Rose, beaucoup de femmes vendeuses de fruits et légumes ont des points de vente de fortune dans la ville de Bukavu. C'est ainsi que certains experts interrogés plaident pour la création d'un grand marché moderne de fruits et légumes dans cette ville. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Sud Kivu toujours, le stade Lumumba dans la ville de Baraka abrite ce mardi les cérémonies marquant la journée internationale des droits des femmes. On peut observer plusieurs corporations des femmes en pagne défiler devant le maire de la ville. Cette ancienne activiste des droits de la femme et jadis très active dans la société civile et responsable de l'ONG FESA appelle la communauté locale de Baraka à vivre en cohésion avec l'autre communauté de Bibogoboko dans les moyens plateaux du secteur de Mutamba. Bala Fiston Ngoma, reportage.
Emérite Tabisha s'est impliquée personnellement dans les préparatifs pour donner à cette journée toute son importance. Jugée exceptionnelle par sa communauté, cette maire de la ville de Baraka à l'intérim a créé un cadre de concertation crade. Pour elle, l'idée est de mettre ensemble toutes les couches sociales et favoriser la cohabitation pacifique face à une crise extrême observée depuis les affrontements dans les moyens plateaux de Bobokoboko. Au cours du lancement de ces cadres de concertation, les Babouari, les Banyamulenge venus des moyens plateaux et les Babembe de Baraka se sont retrouvés pour la première fois au mois de février dernier à Baraka, 5 mois après la crise de Bibokoboko. Emérite Tabisha.
Depuis l'année passée, nous sommes en train d'organiser des rencontres de conscientisation et de sensibilisation parce que nous sommes les premières victimes par ce conflit armé et politique. Cette semaine, nous aurons toute une série de rencontres de sensibilisation, des rencontres de dialogue pour trouver des solutions locales. La recherche de la solution sur le conflit de cohabitation pacifique entre Baraka et Bibokoboko.
Pour cette journée, même si les femmes d'Ubuari ou des moyens plateaux n'ont pas fait le déplacement vers Baraka, l'autorité urbaine reste optimiste pour la fin de la crise. Douvira Fiston Mamayaba, la Radio Okapi.
Et pour clore ce chapitre, dans la province de Maïndombe, signalant le lancement hier à Inongo du projet Moba Lipona Mwasi, entendez l'homme pour la femme, un projet de l'ONG internationale Trias. C'est le secrétaire exécutif et porte-parole du gouvernement provincial de Maïndombe qui a procédé au lancement officiel. Pour le responsable de Trias, ce projet vise l'égalité du genre entre hommes et femmes, ce qui va aider les femmes d'Inongo à évoluer, dit-il. Plus de détails avec Irène Mboma.
D'après les responsables de l'ONG internationale Trias, ce projet lancé hier lundi à Inongo durera 30 mois et il est financé par la coopération belge développement avec une enveloppe de 800 000 euros pour 3 provinces dont le Maïndombe, le Congo central et le Haut-Katanga. Albert Matanga indique que le projet Moba Lipona Mwasi a pour objectif de contribuer à la transformation du genre au sein de la population rurale. Le dit projet va s'exécuter d'abord en coopérative à Inongo et cela va permettre l'autonomie de la femme de ces territoires, a-t-il dit.
La femme du Maïndombe et les jeunes souffrent encore d'une marginalisation presque extrême. Le projet a été mis en œuvre pour aider ces femmes et ces jeunes, qu'on leur donne un peu la chance d'évoluer, que les femmes et les jeunes, surtout les femmes, aient une dignité comme toutes les autres nations du monde en égalité entre hommes et femmes. Dans un premier temps, Trias va exécuter ce projet au niveau du territoire d'Inongo. On commence avec le coopérative.
Albert Matanga sollicite l'implication des uns et des autres, surtout des autorités politico-administratives, afin que le projet Moba Lipona Mwasi soit un succès. Irène Mboma, Bandundu Ville, Radio Okapi.
Parlons justice à présent. Le ministère public a requis la peine capitale contre Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, à l'audience publique d'hier devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. La défense de Kambere a plaidé non coupable après avoir démontré, selon le conseil du prévenu, l'arbitraire, l'absence de preuves de l'accusation portée contre Kambere, ainsi que la violation du droit de la défense. Notre client n'a été confronté à personne, soi-disant ayant subi un préjudice quelconque. Il s'agit d'un règlement des comptes politiques, déclare maître Papi Mukena. La cause a été prise en délibéré pour rendre le verdict en déant 8 jours. Je vous propose ici la réaction de Ferdinand Kambere au sortir de l'audience d'hier, propos recueillis par Guy Maté.
Je pense que c'est un grand moment. Appelé par les réquisitions du ministère public, a été condamné pour la peine capitale. Pour des fins que le professeur Nyabiru soit qualifié de bénin, de querelles, de cabarets. Et le fait que moi-même, je n'ai jamais reconnu, parce que victime, comme ça a été débuté par mes avocats, d'une cabasse, montée sa maman, par et bien d'autres. Ce procès m'a permis de comprendre que ce mouvement qui s'appelle révolutionnaire et qui cherchait ma tête est passé par le canal du professeur Nyabiru pour finalement ma tête. Parce que c'est ce poste qui vante ça comme étant juté. Ils ont attendu que je sois vanté pour que nous apprenions que c'est à quoi les partis se posaient, c'est-à-dire la CENI que nous voyons les bananes aller. Et qu'aujourd'hui, il n'est pas donc surprenant que peut-être déjà est sollicité déjà ce poste-là, profitant du fait que je sois en détention.
Rappelons que c'est depuis le 20 décembre 2021 que Ferdinand Kambere a été arrêté et détenu à la prison centrale de Makala pour coups et blessures sur un collègue de son parti avec qui il n'y a jamais eu confrontation devant le tribunal. Sa plainte y a été retirée, mais le ministère public a décidé de le poursuivre, puis il a requalifié l'infraction initiale en une tentative de meurtre présumé. Direction l'Ituri. 22 personnes, dont 6 militaires des FARDC, sont tuées ce mardi par le groupe armé Codeco à Kilomission et dans un quartier de Mongualou, 85 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Selon des sources concordantes, la majorité des victimes sont des déplacés qui avaient trouvé refuge à la paroisse catholique de Kilo. Les notables et autorités coutumières locales demandent au gouvernement de stopper les meurtres à répétition des paisibles citoyens par cette milice. Isaac Remouéopé nous raconte.
La première attaque s'est produite ce mardi vers 4h du matin au quartier Sayo dans la commune Herrera de Mongualou. 6 militaires et un policier en patrouille sont tombés dans une embuscade des assaillants de la Codeco. Tous ont été tués et leurs armes et munitions récupérées par l'ennemi, affirment des sources de sécurité et des notables de la chefferie de Banyari Kilo. Ces derniers indiquent que l'armée a organisé un bouclage dans cette entité où des tirs nourris ont été attendus dans la matinée. Toujours ce matin vers 5h, un autre groupe de miliciens de la Codeco a tenté d'attaquer une position des FARDC au village de nommé Bruxelles, proche de Kilo État. 4 civils atteints par balles sont morts sur place. Les victimes sont des passagers d'un véhicule tombé en panne proche de la position de l'armée, rapportent des sources locales. Ces rebelles ont été repoussés par l'armée. Pendant leur fuite, ils se sont introduits dans une maison qui hébergeait des déplacés à la paroisse catholique de Kilo Mission, où ils ont tué 12 personnes, dont 5 enfants et 5 femmes. Des autres civils sont grièvement blessés et ont été acheminés dans une structure sanitaire à Kilo État. Pour les notables locaux, l'armée doit revoir ses stratégies. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, à Lubumbashi, le commissaire provincial intérimaire de la police a présenté hier au gouverneur du Haut-Katanga des bandits armés qui sèment la terreur dans la ville. Le gouverneur du Haut-Katanga a salué ce coup de filet tout en déplorant la reprise de la criminalité à Lubumbashi et a promis de mettre les moyens à la disposition des forces de sécurité pour démanteler tous les réseaux des malfrats. Jean Gandou.
Parmi les présumés bandits présentés à l'autorité provinciale se trouvent ceux arrêtés dimanche dernier dans la commune de Rwashi à Lubumbashi. Ce jour-là, les éléments de la police s'étaient rendus pendant la journée au quartier Kawama 3 sur l'avenue Joseph Kabila pour mettre la main sur des bandits retranchés dans une maison. Et il y a eu échange des tirs nourris qui ont duré plusieurs heures, obligeant ainsi les habitants de ce quartier à rester terrés chez eux. Les forces de la police et de l'armée auxquelles se sont joints les éléments de la garde républicaine sont parvenus à les maîtriser. Le bilan fait état d'un bandit neutralisé, d'un officier de la police blessé. D'après la police, ce sont les éléments très dangereux auteurs de plusieurs actes criminels. Les forces de sécurité ont aussi récupéré 4 armes de guerre. Une prouesse saluée par le gouverneur Jacky Abula, qui s'engage à appuyer les forces de sécurité pour combattre la criminalité dans la ville.
Nous avons constaté avec regret que dans la ville de Lubumbashi, il y a reprise de la criminalité. Avec cette opération, nous commençons à comprendre ce qui est en train de se passer et je crois que nous n'allons pas laisser le bras. Nous allons encourager de sorte que vous fassiez convenablement votre travail pour mettre fin à ce phénomène de criminalité qui inquiète notre population.
À noter que parmi ceux qui étaient présentés au gouverneur de province se trouve un officier des FRDC accusé d'être le fournisseur d'armes à ces bandits qui ont déjà endeuillé de nombreuses familles. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Province Sankuru, nous venons de l'apprendre. Évasion spectaculaire dimanche soir de 10 détenus du cachot du parquet général de Lodja. La société civile condamne cette évasion et parle d'une complicité. Des propos approuvés par le procureur général qui affirme avoir mis à la disposition de l'auditorat 3 policiers commis à la gare de cet amigo. Le récit de Esther Ndalafina.
Parmi les évadés, on trouve 2 condamnés pour viol et meurtre et d'autres fugitifs ont été poursuivis pour diverses infractions, affirme le procureur général du parquet général près la cour d'appel du Sankuru. La même source précise que l'évasion s'est effectuée dimanche dernier autour de 19h. Le cachot où étaient détenus ces évadés n'a pas été cassé. Un seul coup de sommation a été entendu quelques minutes plus tard après l'évasion. Les évadés sont sortis par la grande porte, affirme le procureur général. Face à cette situation, Obey Iyelinzo a décidé de mettre les 3 policiers commis à la garde de cet amigo à la disposition de l'auditorat militaire pour être jugés en flagrance pour connivence à l'évasion. Selon le procureur général, ces évadés ont été gardés au niveau du cachot car la prison de Lodja est dans un état de délabrement très avancé. La société civile, pour sa part, estime que tous ces évadés sont ceux poursuivis pour meurtre, viol, incendie des maisons lors du rebondissement du conflit foncier qui a opposé du 8 au 14 février dernier, les habitants du secteur de Nambelo à ceux de Fungé. André Agnébé, président de la société civile.
La société civile souhaite que les fugitifs soient retrouvés et répondent de leurs actes.
Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, un immeuble de 4 étages s'est affaissé sur ses occupants dans la commune de Cocody-Engrais. Bilan, 5 morts et plusieurs blessés. L'accident a eu lieu très tôt hier matin, selon les sapeurs-pompiers. L'identité du propriétaire de l'immeuble reste protégée, mais les autorités ivoiriennes promettent d'ouvrir une enquête à ce sujet. Au 13e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des cessez-le-feu locaux annoncés par Moscou sont censés débuter aujourd'hui. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé hier soir l'armée russe d'avoir fait échouer l'évacuation des civils via des couloirs humanitaires qui devaient être mis en place dans le pays à la suite des pourparlers.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Madame Jaël Kaïba-Ilunga, présidente provinciale de la Fédération nationale des artisans des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC Maniema. Elle nous parle de la situation de la femme du Maniema et s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Jaël Ilunga, bonjour.
Bonjour, Madame la journaliste.
Présidente de FENAPEC Maniema, comment évolue votre fédération?
Merci beaucoup, Madame. Pour la question, la FENAPEC évolue très bien, mais il y a des difficultés à cause des femmes. Comme notre thème nous dit cette année que l'autonomisation de la femme, nous demandons à ce que la femme de Maniema soit autonome dans ce qu'elle est en train de faire. Parce que quand on parle de l'autonomisation, on parle de dire que cette femme-là est mentalement éduquée, cette femme-là a un pouvoir économique ou financier, cette femme-là a le pouvoir de son travail, parce que c'est lui-même qui a créé ce travail, cette initiative, cette activité commerciale. Cette femme a un discernement pour qu'elle puisse orienter ce travail, que ça puisse aller de l'avance. Alors, pour la province de Maniema, nous voyons qu'il y a une difficulté pour les femmes. Or, dans l'autonomisation, c'est-à-dire tout le monde attend de voir une réussite, un avancement, un changement, une croissance dans cette activité-là. Puis la FENAPEC est là, c'est pour que la femme soit autonome. La FENAPEC est là, c'est pour que les femmes puissent connaître, se prendre en charge. La FENAPEC est celle de la province de Maniema pour que les femmes viennent en synergie. Parce qu'on dit l'union fait la force. Si les femmes sont en synergie dans une activité ou dans un domaine quelconque, ce domaine-là va aller de la l'avance. Avec cette année 2022, nous voulons que les femmes puissent maintenant prendre conscience, à venir à la FENAPEC, connaître quel est le secret de la FENAPEC dans la province du Maniema, puis chercher à ce que la province puisse être promise à cause des femmes, que les femmes puissent faire quelque chose qui va s'égrader dans la province du Maniema qu'on voit dans d'autres provinces.
Vous avez combien de membres à la FENAPEC et parmi combien de femmes?
Nous avons beaucoup de membres à la FENAPEC, mais la majorité sont les hommes. Pour les femmes, nous avons seulement une femme qui est capable à la province de Maniema comme membre de la FENAPEC.
Pourquoi cette situation?
Oui, cette situation est là parce que les femmes de Maniema ne savent pas se prendre en charge. Comme la femme a un pouvoir très limité, elle n'arrive pas à se prendre en charge. C'est-à-dire, à la FENAPEC, pour devenir membre, vous devez payer une caution pour avoir d'abord une fiche d'affiliation. Après la fiche d'affiliation, il y a une cotisation mensuelle. Mais les femmes n'ont pas cette capacité. Ils n'arrivent pas à faire cela parce que dans leur capital, il y a beaucoup de choses. Ils n'ont pas de capital sérieux qui peut les avancer de l'avance. Et ils ne savent pas se prendre en charge, c'est-à-dire dans les groupes. Quand on est en groupe dans une organisation quelconque, il y a une idée primordiale quand on vous invite là-bas pour que vous puissiez promouvoir ce que vous êtes en train de faire.
Vous venez de nous dire là que la femme du Maniema manque un capital pour faire avancer ces choses. Quel conseil à la femme de la province du Maniema pour qu'elle aille de l'avant?
Le conseil à la femme, c'est de prendre au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Depuis que nous avons commencé avec le 8 mars, c'est non seulement pour porter l'épargne, pour fêter, prendre du riz, et ainsi de suite, non. Ou pour dire que nous sommes égales avec les hommes, non. Cette journée, on donne, c'est une journée de réflexion, de voir comment est-ce que nous sommes en train de travailler, comment est-ce que nous sommes en train de nous situer dans la province de Maniema, dans les activités que nous sommes en train de faire, dans le travail, dans le bureau, partout où nous sommes, même dans les marchés, quel est notre comportement, quel est le changement, quelle évolution que nous avons atteint depuis que nous avons commencé à fêter le 8 mars. En plus de cela, nous plaidons aussi aux hommes. Si vous donnez un capital à une femme, essayez de l'encadrer, pas d'amener beaucoup de charges de la famille, du foyer, tout c'est dans. Si vous avez donné 100 000 francs, dans les 100 000 francs, il faut que la femme puisse travailler pour payer les loyers, pour que la femme travaille pour payer les études des enfants, scolariser les enfants dans cette même capitale, pour payer la ration chaque jour. Non, la femme doit aussi être, on peut lui donner aussi cette capitale uniquement pour les affaires, mais pour d'autres choses qui viennent, pour le temps, vous pouvez d'abord la détacher et vous allez voir comment elle va évoluer. Quand elle va évoluer, elle va attendre de grandes sommes d'argent. C'est à ce moment-là que vous devez associer d'autres occupations de la maison. Mais si elle est surchargée, elle ne va pas aller très loin. Et l'homme doit être là pour l'encadrer avec des conseils et surtout accompagner aussi. Et s'il y a des séminaires, laissez les femmes venir dans les séminaires pour qu'elle puisse avoir de l'instruction mentale, pour avoir des directives, des orientations pour diriger l'activité qu'elle est en train d'effectuer.
Et aux autorités?
Aux autorités, nous demandons aussi la sensibilisation. Dans la province de Maniema, nous n'avons pas même la banque pour l'accompagnement. Banque agricole, il n'y en a pas. Il n'y a même pas un séminaire où l'autorité a organisé pour sensibiliser les femmes, pour savoir leurs difficultés. Comment est-ce que les femmes évoluent? C'est comme nous avons ici aujourd'hui notre ministre de l'économie dans la province. Est-ce qu'elle a invité les femmes pour savoir comment nous vivons? Comment est l'économie du Maniema? Aux mains des femmes, combien de femmes qui ont des capitaux, combien de femmes qui sont dans de telles activités, de l'activité. Quand il y a une autorité comme ça, qu'on donne aussi l'accès aux femmes de parler à une autorité, de savoir sur les difficultés que nous avons dans la province. Comme il est là, même moi de la FENAPEC, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller le voir. Parce qu'il y a toujours des crocages. Nous ne savons pas comment atteindre l'autorité pour parler avec lui les difficultés que nous avons dans la province.
Madame Jaël Ilunga, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et que Dieu vous bénisse.
La présidente provinciale de FENAPEC Maniema était avec Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Chikotachi Vueta, supervision de Martin Sebujangwe, à la mise en onde Willem Lungamba et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci.